Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Lim Wang Nok, économiste qui a participé à la contre-expertise du rapport Attali dans le cadre de la boîte à idées La Forge.
Et oui, alors justement, le rapport Attali, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, mais aussi sur le site de l'Humanité. Et je vous invite vivement à plutôt user ce biais, puisqu'on peut peut-être être informé de ce qui vient de nous tomber dessus de façon gratuite. Et là, vous verrez, c'est un grand moment. Ce rapport commence par un résumé, et les premières phrases sont « Ceci n'est ni un rapport, ni une étude, mais un mode d'emploi pour des réformes urgentes et fondatrices. Il n'est ni partisan, ni bipartisan, il est non-partisan. » Alors, Lim, non-partisan ?
Tout d'abord, je voudrais remercier Aligre d'avoir organisé cette émission sur le rapport Attali, parce que c'est à peu près le seul média qui organise la controverse. Il faut savoir que Jacques Attali, pendant 2 semaines, a fait un lobbying effréné auprès du Parti Socialiste, notamment pour que celui-ci ne prenne pas position sur son rapport, ce qui explique le silence du secrétaire national chargé à l'économie en ce moment sur cette question-là. Il a quasiment fallu lui forcer la main pour qu'il prenne en charge un communiqué. Il a dû faire le même lobbying auprès de toute la presse, ce qui explique que, mis à part le moment de l'annonce de ses 316 propositions, personne n'a eu la parole pour contester fondamentalement ces propositions de fond, mis à part peut-être les chauffeurs de taxi qu'on a très rapidement satisfaits parce que c'est la clientèle de Sarkozy sans doute, mais plus généralement sur des questions de fond, il n'y a pas eu de débat quoi. Alors la question que vous me posiez c'était
non partisan, il dit que c'est non partisan.
Ah oui, tous les textes de la sorte qui ont été commandés par les gouvernements au cours de ces 15 dernières années prétendent ne pas être partisans. On peut citer toute une série de rapports qui ont été remis au nom de l'expertise idéologique. Il y a eu le rapport Minc, c'était en 1994, le rapport Boissonnat, 95. Le rapport Candessus et le rapport Virville, c'était en 2004. Et puis, il y a eu toute une série de rapports du Conseil d'analyse économique réputé, là aussi, un haut lieu du débat scientifique en économie. Tous ces rapports se prétendent complètement neutres. Or, ils ont pour dénominateur commun d'avoir brassé l'air du temps de ces 10 ou 15 dernières années, en propageant l'idée que, finalement, il n'était pas d'autre politique possible que celle qui était menée. Quand vous lisez le rapport Attali, vous êtes frappé de considérer que, dans l'exposé des motifs de ces propositions, il y a l'idée que nous serions encore dans la France, et là je cite le rapport, hérité du modèle de l'après-guerre. Comme si nous vivions encore sous le joug de la France du général de Gaulle, dont Attali fustige les corporatismes, les privilèges, etc. C'est quand même oublier que ce que l'on appelle le modèle social hérité du compromis de 45 a largement été détricoté depuis au moins une décennie, si ce n'est plus, et le rapport Attali, comme les autres rapports que j'ai cités, ne font que demander au pouvoir public d'accélérer le rythme de réformes qui ont déjà eu lieu et dont on a échoué à établir un premier bilan. Je pense que une mission salutaire d'un rapport sur les freins à la croissance aujourd'hui en France aurait pu dresser un bilan d'étape d'une politique qui est conduite depuis maintenant plus que le moyen terme. Si l'on regarde le cœur des propositions du rapport Attali, c'est quoi ? C'est au fond que la France souffre d'un poids de l'État excessif, donc il faudrait réduire la part des dépenses publiques de 1 point par an à l'horizon 2012. La France souffrirait de rigidité du marché du travail, il faudrait flexibiliser le contrat de travail, le contrat à durée indéterminée en particulier, et puis asseoir ce que l'on appelle dans les textes européens la flexicurité. Le modèle français souffrirait aussi d'une insuffisante ouverture à la concurrence, et donc il faudrait achever l'ouverture à la concurrence sur tous les marchés, en allant même jusqu'à, et c'est le seul truc qu'ont retenu les journalistes, déréglementer les taxis, les coiffeurs et les pharmaciens, quoi. Bon, ça c'est pour l'anecdote, mais il y a plus généralement un plaidoyer en faveur de l'ouverture à la concurrence qui est le lot de nombreux textes et de rapports qui sont remis maintenant depuis une quinzaine d'années. Bon, voilà grosso modo la philosophie du rapport, et moi je la juge en bloc, parce que Attali demande d'ailleurs qu'on juge les 316 propositions en bloc dans leur cohérence. On peut toujours en trouver une ou deux qui puissent être discutées. Bon, mais on essaye d'avoir un aperçu global du rapport, c'est ça la philosophie, c'est que il faut accélérer au fond les réformes qui sont en cours depuis une quinzaine d'années et qui sont menées notamment en application de ce que l'on appelle en Europe la stratégie de Lisbonne, celle qui a été entérinée par les gouvernements au Conseil européen de mars 2000 au Portugal, et stratégie qui a été renouvelée en 2005. On appelle ça désormais la stratégie de Lisbonne renouvelée, comme quoi elle est bien en application et comme quoi les instances européennes en ont déjà tiré un bilan à plan révision. Et les gouvernements sont d'ailleurs tenus de remettre un rapport intitulé « Programme national pour l'emploi » dans le cadre de cette stratégie. Et si vous lisez ces rapports gouvernementaux, vous retrouvez la substantielle moelle de ce qu'il y a dans le rapport Attali. Donc on aurait pu dresser un premier bilan de ces politiques. Et moi, je rappellerai que, contrairement à ce que pense le grand public, ces politiques sont un échec. L'Europe, aujourd'hui, est la zone de croissance la plus faible du monde. C'est la zone où la moitié des pays membres de l'Eurogroupe sont incapables de respecter le pacte de stabilité, c'est-à-dire de respecter les critères devant tendre vers l'équilibre budgétaire. C'est une zone où, excepté l'Allemagne, de nombreux pays subissent un déficit commercial chronique. Et c'est une zone où les inégalités se sont considérablement accrues, particulièrement en France, et où le chômage est persistant. Donc il va bien falloir un jour tirer le bilan d'une politique qui, conduite au cours de ces 15 dernières années, nous mène carrément dans le mur, et le rapport Attali ne le fait pas. Il propose au contraire de serrer la corde autour de du cou du pendu, alors que le pendu ne respire déjà plus.
Des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de Lee Bangnok, qui est économiste et membre du Parti Socialiste. Vous savez, moi j'aime bien en réalité être très attentive à ce qui se dit dans les médias, enfin les autres médias. Et quand même, la tendance que j'aurais, c'est de me dire, mais peut-être qu'Attali a raison, dans le sens où, oui, les réformes n'ont pas été... Parce que tout à l'heure, vous disiez, finalement, si on faisait un bilan, on s'apercevrait que c'est quand même pas terrible, ce qui a déjà été fait, qui va dans la même direction qu'Attali, que ce que propose Attali. Mais peut-être que c'est parce qu'on n'a pas fait assez de réformes, on n'a pas été assez loin. C'est ce qu'on entend, hein, classiquement, dans les médias classiques.
Bah écoutez, Jacques Attali se trompe d'époque. Et d'ailleurs, on peut se demander ce qu'il a fait pendant 15 ans, lorsqu'il était conseiller spécial à l'Élysée. On se demande pourquoi il n'a pas appliqué les réformes qu'il préconise aujourd'hui. En vérité, ces réformes sont déjà appliquées depuis, comme je l'ai dit, un moyen terme, 10-15 ans. L'ouverture à la concurrence est en passe de s'achever dans tous les secteurs, et notamment les principaux secteurs stratégiques. Dans le secteur de l'énergie, pas besoin de vous faire un dessin, et ça se traduit par la privatisation de DF et de jeux DF. Il n'y a plus de champions nationaux aujourd'hui. L'ouverture à la concurrence et les privatisations ont quand même été conduites depuis 1993 à grand train. Si bien qu'aujourd'hui, la structure du capitalisme français n'est plus celle du début des années 80. Elle ressemble de plus en plus à la structure du capitalisme anglo-saxon, avec des noyaux durs qui sont réduits de plus en plus. Dans le monde anglo-saxon, les noyaux durs, les noyaux stables, hein, ce qu'on appelle les noyaux stables d'actionnaires qui tiennent un peu les entreprises, représentent moins de 10% du capital des entreprises. En France, on est descendu en dessous de 20, et la place de Paris est tenue à 50% par les fonds de pension anglo-saxons. Donc en matière industrielle, les réformes ont été faites. Alors il reste les taxis, les coiffeurs, etc. Mais bon, ça c'est pour amuser la galerie, si vous voulez. La grande distribution, mais là on pourrait encore en parler. Est-ce que l'ouverture à la concurrence dans la grande distribution est la solution pour relancer le pouvoir d'achat, alors qu'on ne parle absolument pas des salaires, et qu'on sait que dans la grande distribution, vous avez six grands groupes qui ont le beurre et l'argent du beurre parce qu'ils sont en position de quasi-monopole par rapport à leur clientèle et en position de force de quasi-monopsone, c'est-à-dire qu'ils sont un seul demandeur ou très peu de demandeurs face à une multitude de fournisseurs et notamment de petits fournisseurs. Et donc ouvrir la concurrence, c'est ici renforcer le pouvoir du loup dans la bergerie, surtout si on déréglemente les installations de supermarchés dans les villes. Enfin bon, là on peut allonger la liste sur les réformes. Là je me suis un peu perdu sur la grande distribution, je sais pas trop si c'est le sujet d'aujourd'hui, mais après si on fait la liste des réformes, le système des retraites a quand même été réformé, et il va continuer à l'être. On va passer à 41 voire 42 ans de durée de cotisation, c'est programmé dans le prochain rendez-vous. L'assurance maladie a fait l'objet de la fameuse réforme d'Oust-Blasi de 2004 qui poursuit les déremboursements et fait peser sur les ménages le financement de la sécurité sociale. Et là, on va continuer puisque le panier de soins va exclure de plus en plus de biens remboursables et les affections de longue durée vont y passer. Elles sont remboursées à 100% et la prochaine fois, ça va être une privatisation partielle du financement de ce type de soins. Le marché du travail, il est devenu extrêmement flexible, notamment en matière salariale. La France est quand même le pays où la déformation du partage des revenus au détriment des salaires a été la plus forte parmi tous les pays industrialisés. Dans aucun pays, vous n'assistez à un déplacement de 10 points de partage de la valeur ajoutée en faveur des profits. L'emploi est extrêmement flexible. Il faut savoir que la flexibilité de l'emploi est plus forte en France, contrairement à ce que l'on pense, qu'au Danemark, qui est le pays de la flexicurité. En France, vous avez 4 travailleurs sur 10 qui changent d'emploi dans l'année, contre 3 travailleurs sur 10 au Danemark. Pour cause, puisque on a déjà des dispositifs très souples, on a du CDD, on a de l'intérim. Et puis le contrat de durée indéterminée est en voie d'assouplissement dans les récentes négociations. Donc vous voyez que les réformes sont déjà en cours. On parle du poids de l'État dans l'économie, mais là on raconte beaucoup de bêtises. La part des dépenses publiques dans le PIB n'a pas augmenté, elle est restée strictement la même depuis 1983. Et ce que ne savent pas les Français, c'est que la part des dépenses de l'État a même baissé de 2 points. Ce qui a augmenté, c'est les dépenses sociales, sécurité sociale, retraite, assurance maladie. Bon, mais les dépenses de l'État ont baissé de 2 points, et au sein de ces dépenses de l'État, les dépenses de fonctionnement qui sont la cible des néolibéraux, c'est-à-dire les dépenses de santé, d'éducation, notamment, que certains voudraient voir privatisées, eh bien, elles ont baissé de 5 points au sein de ces dépenses de l'État. Donc la rigueur budgétaire a déjà fait fureur dans notre pays. Et la hausse de la dette aujourd'hui n'est pas due au fait que l'on dépense trop. Au contraire, les dépenses ont baissé. La hausse de la dette est due à la baisse des recettes qui sont dues aux baisses d'impôts qui ont été réalisées depuis 15 ans, baisse d'impôts sur les hauts revenus, et cela s'est fait dans le cadre de politiques qui ont été incapables de soutenir la croissance. Donc vous avez des impôts en moins, et puis vous avez des politiques qui ne relancent pas la croissance, donc vous avez au bout du compte des recettes fiscales qui se tarissent et une dette publique qui finit par se creuser. Si bien que ces politiques sont véritablement un échec. Elles n'ont pas relancé la croissance, elles ont creusé la dette, elles ont creusé les inégalités en flexibilisant le marché du travail, et elles ont été incapables de ramener l'économie au plein emploi. Et le vrai problème dont souffre aujourd'hui l'économie française, c'est pas ce que raconte Attali, c'est pas une insuffisante flexibilité du marché du travail ou le poids excessif des dépenses de l'État qui plomberait le dynamisme de l'investissement des entreprises. En vérité, ce dont souffre la France, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, et notamment les grandes entreprises cotées, peuvent investir. Elles ont des bénéfices records, malgré la crise qui sévit, il y a encore 100 milliards, enfin 96 milliards de bénéfices parmi les entreprises du CAC 40 aujourd'hui. Et quand vous regardez ce que font les entreprises de leurs bénéfices, elles ne les investissent pas. C'est ça le vrai problème. Elles les distribuent sous forme de dividendes. Les dividendes alimentent la bulle boursière qui est en train d'éclater. Les dividendes alimentent aussi la spéculation immobilière qui se fait au détriment de tout un chacun. Et on a une économie qui est véritablement en panne d'investissement, parce que l'abandon de la politique industrielle dont j'ai parlé depuis 1993 revient aujourd'hui à confier aux fonds de pension et aux actionnaires dont l'œil est rivé sur le court terme la gestion de nos grandes entreprises stratégiques. C'est ça les conséquences de l'ouverture à la concurrence. Et la contrepartie du fait que l'on ait gonflé la part des profits au détriment de la part des salaires, c'est que on a une consommation qui, de l'autre côté, se retourne, et l'économie aujourd'hui est uniquement tirée par la consommation des classes riches. Ce qui est insuffisant pour que l'économie atteigne son taux de croissance potentiel, qui est aujourd'hui supérieur à 3%. On est entre 1,5 et 2. On n'a pas assez de consommation, on n'a pas assez d'investissement, on n'a pas assez d'exportation, parce que comme on n'a pas investi, on n'est pas compétitif. Et on a une situation où le commerce extérieur affiche encore un déficit record avec 39 milliards d'euros de déficit. Alors on peut continuer ça pendant des années. Et l'Europe, dans tous les pays, nous invite à continuer dans cette voie-là. Mais comme dirait l'autre, on va dans le mur. Et il va bien falloir un jour en tirer le bilan, surtout s'il faut préparer l'alternance.
Des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de Limon Locke, que j'écoutais attentivement, mais je me disais, mais finalement, pourquoi il a fait un rapport à Tali? Puisque tout est déjà sur les rails, il n'y a plus qu'à continuer comme ça. Il n'y avait pas besoin de rapport.
Ah bah, Sarkozy a sans doute besoin de légitimation idéologique. L'ouverture à cette fonction... que de conforter les choix qui sont faits au nom d'intérêt général. Donc, en plus, Sarkozy, c'est flatter les égos. Donc, ça mangeait pas de pain d'aller débaucher l'ancien Sherpa de François Mitterrand pour mieux enfoncer le clou dans une gauche qui ne répond pas tellement.
Oui, mais ça pouvait invalider les propos d'Attali, justement, en même temps.
Oui, mais vu la composition de la commission Attali, vous aviez quand même des gens comme Jean-Marc Sylvestre ou Éric Le Boucher, qui sont membres du lobby néoconservateur qui sévit dans la presse quotidienne ou dans les presses quotidiennes. Il n'y avait pas tellement de risques. Il y avait également Mario Monti, l'ancien commissaire européen qui s'est opposé à l'époque à la recapitalisation d'Alstom. Et puis il y avait une brochette... de dirigeants d'entreprises dont on pouvait supputer qu'ils poussent dans la direction que suit actuellement le président de la République.
Que du beau linge alors ?
Que du beau linge, trois économistes seulement. Pour parler de la croissance, c'était un peu paradoxal. Christian de Boissieu, président du Conseil d'analyse économique. Jean-Philippe Cotis, ancien économiste... en chef à l'OCDE, qui est maintenant directeur de l'INSEE, et puis Philippe Aguillon, qui est un économiste académique émigré aux États-Unis, qui aime bien Ségolène Royal.
Que des gens neutres.
Ça fait...
ça fait un peu nouveau générique pour des sous, ça doit être une erreur de manipulation, mais c'est pas grave. Eh bien, on va en rester là avec Limo Ngoc, mais de toute façon, on va le retrouver, c'est celui-là normalement. En tous les cas, donc, à la semaine prochaine, très probablement encore avec Limo Ngoc. Et très bientôt, nous recevrons aussi Nicolas Dupont-Aignan, c'est-à-dire, pour aux yeux de certains, pour ainsi dire, le diable. On va voir ce que ça donne. À bientôt.